Chapitre 22. La lumière ressurgissait par touches subtiles, mais elle n'avait rien à voir avec ces teintes chaudes qui encourageaient à lever le visage vers le ciel. Non, cette lumière-là se contentait de combler le vide de la nuit, de remplir le néant de nuances poisseuses, de gris, et de pousser les machines hommes à remplir les rames de RER pour aller nourrir les robots qui bientôt occuperaient leur place dans les usines. « J'ai apporté des munitions avant le grand départ. Croissant, pain au lait, chaussons aux pommes. » À 6 heures du matin, Audra posa la corbeille de viennoiserie sur le coin de son bureau en même temps que son thermos de thé et une pile de gobelets. Seul Nicolas était dans la pièce, droit dans son fauteuil, le nez rivé à l'écran. Il n'avait rien lâché. Audra avait déjà croisé des flics de sa trempe, des loups des steppes dopés à la hargne qui ne trouvaient l'apaisement que dans les abysses d'une traque. Il se leva en s'étirant, décontracta sa nuque par quelques rotations de la tête et vint piocher un croissant. Il détailla d'un œil rougi la nouvelle tenue de sa partenaire. Jean, puis la col roulée beige et kickers bleu nuit. Seules ses mains portaient encore les stigmates de ses blessures de la veille. « On dirait que t'es devenu une vraie flic !» Audra servit l'été et désigna du menton le sac de sport qu'elle avait rapporté. « Disons que je vais éviter de transformer mon corps en champ de bataille cette fois-ci. Tu crois que ça va marcher, notre planque? Qu'on a une chance de le choper avant l'ultimatum ?» Après les auditions, Nicolas l'avait appelé à 4 heures du matin et lui avait proposé de s'occuper de la série de planques avec lui à Jeanville. Il avait réussi à convaincre Charcot et Audra avait accepté. « C'est la piste la plus directe. On ne peut pas manquer l'opportunité. À cause de l'ultimatum, Charcot veut qu'on se concentre sur ce qui a le plus de chances de donner des résultats rapidement. C'est une course contre la montre, et le punisseur est une clé essentielle. » Ils burent leur boisson d'un trait, et Nicolas rassembla leur matériel. Ordinateur portable, une batterie externe pour recharger les téléphones, un boîtier photo, une balise GPS. Même enfermé dans une voiture à planquer, il pourrait ainsi continuer à travailler et rester connecté au reste du groupe en attendant la relève. Ils en prenaient pour 12 heures. « Allez, en route !» Ils allèrent prévenir Charcot de leur départ. 10 minutes plus tard, ils s'engageaient sur le périphérique Porte de Clichy en direction du nord. À 6h30, les voies s'engorgeaient. Une bruine opaque brouillait la vue. Malgré les essuie-glaces, Nicolas ne tarda pas à sentir sa collègue sous tension. Elle avait les mains scellées à ses genoux et scrutait sans discontinuer la circulation dans les rétroviseurs. Il ne lui fallut pas longtemps pour faire le rapprochement. « Les camions ?» Audra se ressaisit sans répondre et augmenta le son de la radio. Sur les ondes, l'information tournait en boucle. D'après le journaliste, l'ange du futur, ce hacker, auteur du piratage du site de l'Élysée, avait kidnappé le surmédiatisé Bertrand Lesage et une jeune femme connue sur les réseaux sous le nom de Floise. Il résumait l'affaire à une course contre la montre d'une cruauté exceptionnelle puisque le calvaire de 2 victimes était exposé en direct sur un site internet dont il taisait l'adresse. Il demandait néanmoins à ceux qui la possédaient de ne pas la diffuser. « Tu parles !» grogna Nicolas. « Ça revient à jeter un morceau de viande devant un lion et à lui ordonner « n'y va pas !»« Bien sûr que les auditeurs vont aller sur le site. Peut-être seront-ils horrifiés, mais ils vont regarder et ils ne repartiront pas avant de connaître le fin mot de l'histoire. On est revenu au temps des jeux du cirque et tous ces fichus terroristes, quels qu'ils soient, le savent mieux que quiconque. » Audra ne parlait pas. Trop tendue, trop concentrée sur la circulation autour d'elle. Elle sortit son portable et commença à pianoter. « Il y a un truc que je ne pige pas encore chez l'ange, » continua Nicolas, pour entretenir la conversation. « Pourquoi il s'en est pris à cette Floise ? Bertrand Lesage, je comprends, il est médiatisé, mais elle, a priori personne ne la connaît, elle n'a que 300 amis. Juste une anonyme de la toile qui court 2 fois par semaine et filme de temps en temps depuis l'arrière de sa tête. » Alors pourquoi elle et pas une star de la télé-réalité ou un youtubeur avec des millions d'abonnés? Est-ce qu'il la connaissait personnellement? Un proche, un voisin, un collègue de travail? Pas de réponse. Elle regardait son écran, rien que son écran. Son addiction au portable énerva Nicolas, qui avait l'impression de parler à un mur. « Si tu ne supportes pas la circulation ou la voiture, ça va être compliqué, tu sais. La bagnole, c'est notre seconde maison. » Audra leva les yeux. « Tu crois que je vais à l'hôpital seulement pour faire joli ? Que cette thérapie, c'est juste... » Elle claqua des doigts. « Histoire de me la couler douce ? Tu devrais être le premier à comprendre. »
« Je ne vois pas le rapport avec ton téléphone. »«
C'est parce que tu ne peux pas... » Nicolas plaqua son doigt sur ses lèvres et augmenta le volume de la radio.
« Qu'un tout premier cas de choléra vient d'être détecté cette nuit dans une petite ville du sud-est de Cuba, dans la province de Granma, à 700 kilomètres de La Havane. La maladie avait disparu depuis les années 50, mais les épidémies semblent se multiplier sur l'île ces dernières années, les deux plus récentes ayant eu lieu en 2013 et 2016. Et maintenant, la météo. »
Le flic fit taire l'autoradio d'un mouvement sec. Audra rempocha son portable. « Le choléra, c'était dans la première lettre, celle de mardi, non ?»
Main sur le volant, Nicolas lorgna sur l'écran de son téléphone. Il lança une rapide recherche sur Internet.
« Rien sur d'éventuelles émeutes au Soudan. » Il afficha ensuite la lettre.
« Oui, c'était dans la lettre. Et voilà exactement ce qui était marqué. Si je vous disais qu'une épidémie de choléra va se déclarer à Cuba, que la gare d'Austerlitz aura bientôt les pieds dans l'eau, ou encore que des affrontements vont éclater au Soudan dans quelques jours, vous me prendriez sûrement pour un fou. »
Il se concentra à nouveau sur la route.
À supposer, je dis bien à supposer qu'ils disent vrai pour les trois événements, qu'est-ce qui peut relier une crue à Paris, une maladie à Cuba et des émeutes au Soudan ?
Rien. Ce sont des catastrophes réparties qui plus est aux quatre coins du monde.
Des événements imprévisibles, plutôt que des catastrophes, car il y a les émeutes. Hormis la montée des eaux chez nous et le fait que, sans doute, l'ange extrapole, comment il pouvait savoir pour le choléra ? La radio a parlé d'un premier cas détecté cette nuit. On a reçu la lettre mardi, mais elle a dû être rédigée bien avant. Alors, comment il a fait ?
Nicolas ne comprenait pas. Il devait y avoir une explication, un tour de passe-passe, comme lorsque l'inconnu s'était effondré devant le bastion à 17h02, la conséquence d'un pacemaker trafiqué. Personne ne pouvait prédire l'avenir, pas même cette ombre qu'il traquait et qui se faisait appeler « ange du futur ». Cependant, le flic ne pouvait s'empêcher de repenser au tatouage de l'inconnu des bois. Une étrange prédiction, là aussi, dont il n'avait pas l'explication rationnelle. Une fois à Jeanville, ils allèrent acheter sandwichs, desserts et boissons dans une boulangerie, puis suivirent les indications fournies par Emmanuel Prost. Écrasée sous la grisaille, la ville se mourait, avec ses maisons de briques rouges et ses avenues désertées. Le cimetière de Carcasse les attendait au bout de l'île Jean-Lenoble, accessible par un vieux pont tellement rouillé que Nicolas se demanda s'il allait supporter le poids de son véhicule. Ils passèrent devant un chapelet d'habitations. Des courageux habitaient encore ici. Et firent une première fois le tour de l'île, environ 2 kilomètres le long d'un chemin au revêtement défoncé. Ils avaient aperçu les bateaux en question, à l'extrémité nord, derrière des murailles de broussailles et d'arbres morts. Il leur fallut moins de 5 minutes pour revenir vers les péniches. Nicolas décida de se garer à 200 mètres de là, dans l'ombre de bâtiments d'un chantier naval abandonné. Leur véhicule était invisible depuis le chemin.
« On prend seulement les lampes, histoire de jeter un œil. »
La pluie rendait le gris plus gris. La surface de l'Oise se mêlait au ciel sans dégrader de couleur. L'automne avait réduit les arbres à des mains décharnées, sinistres gardiennes d'une berge inaccessible. Heureusement, ils dénichèrent une passerelle en mauvais état qui s'enfonçait droit dans la végétation.
« Moins glamour que chez toi !» fit Audra.
L'épisode de stress dans la voiture paraissait envolé. Audra avait retrouvé des couleurs. Ils marchèrent sur une 50aine de mètres et atteignirent la rive. Les croisillons oxydés de la passerelle gémissaient.
ses ramifications s'élançaient vers les péniches en ruine, certaines en partie découpées. Nicolas comprenait mieux la présence du chantier naval. Des travaux de démantèlement avaient été entrepris, mais laissés en plan. Les coques à nu saignaient, rongées par le ressac perpétuel des eaux troubles. Emmanuel Prost avait raison. Difficile de choisir un endroit plus sinistre et isolé. Le terrain de jeu idéal pour des combats clandestins. Ils gagnèrent le dernier bâtiment, une péniche commerciale flamande, pareille à une baleine échouée. Ils s'y engagèrent avec prudence. Le niveau de l'Oise avait monté et rendait l'accès dangereux. En tête, Nicolas tenait sa main pas loin de son arme. « Fais attention où tu mets les pieds. » Le pont défoncé, troué, était encombré de cordages, de détritus. Des pics de rouille saillaient des coursives et des garde-fous. Un lierre étranglait la timonerie, s'enroulait autour de la roue du gouvernail. Nicolas s'empara de sa lampe torche et éclaira une bouche noire en contrebas. On n'en voyait pas le fond. Les marches se perdaient dans l'obscurité. Soudain, il sentit une pression sur sa gorge, une main invisible qui cherchait à l'étrangler. Ses muscles se durcirent et ses doigts se mirent à trembler. « Pas maintenant !» Il inspira et avança, courbé, dans l'écho des gouttes, des grincements d'acier à l'agonie. Flash sur ses rétines, la roche, les ténèbres. Camille attachait les bras en croix et éventrée. Nicolas secoua la tête. Son cœur lui écartait les côtes avec ses battements violents. Sué. Il stoppa net et Audra lui rentra dedans.
« Oh, ça va ?»
Nicolas hocha la tête et s'écarta. « Faut juste que ça passe. Continue seul. On forme la paire, toi et moi. » « Bataclan, » songea Audra. Les lieux clos et sombres devaient le ramener là-bas, comme elle avec ses camions. Et le médicament amplifiait tout. Elle ne dit rien et progressa dans la cale, si longue que le rayon de sa lampe en mordait à peine le bout. Sa santé, la tourbe et l'oxyde de fer. La rouille colonisait le sol, le plafond, les parois. Elle découvrit au plus profond de la cavité un grillage tendu entre des battants d'acier qui fermait un compartiment carré d'environ 3 mètres de côté. De la paille couvrait le sol sous une guirlande d'ampoules suspendues et reliées à une batterie de voiture. Tout était prêt pour l'affrontement des chiens. Elle se tourna vers Nicolas, resté loin en arrière et réduit à un point lumineux dans la nuit. Elle courut le rejoindre.
« La reine est là-bas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»
Nicolas remonta à la surface, emplit ses poumons d'air et laissa son visage accueillir la pluie. Le sang bruissait dans ses oreilles.
On se planque dans la voiture et on attend. S'il se pointe et s'engage sur la passerelle, on n'aura pas beaucoup de temps. Il faudra aller coller la balise GPS sous son véhicule, c'est tout. Avec ça, il sera ferré et les équipes pourront le taper en toute sécurité. Reste à espérer qu'il vienne, au mieux ce soir, au pire, dans la nuit de dimanche.
Avant de quitter le navire, Nicolas se tourna vers sa collègue.
« Pour ce qui m'est arrivé là-dedans, pas un mot. À personne.
Il ne s'est rien passé non plus dans la voiture. »
Nicolas acquiesça.
« Je ne veux pas qu'on en discute, même entre nous, » poursuivit Audra. « J'ai déplacé mon rendez-vous à la salpêtrière au samedi au lieu du mardi. Comme ça, on ne s'y croisera plus. Je ne veux en parler avec personne, ok ?»«
Et moi, je l'ai calé au lundi. »
répliqua Nicolas avec une pointe d'agacement dans la voix. « Heureusement qu'on n'a pas encore choisi le même jour. » Audra se remit en route.
« C'est bien. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde tous les deux. »